Morning Edition from NPR News.
MCT Sandin de Hausi.
Haliam Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Ce n'est pas seulement une chaîne de télé CNN qui risque une mise au pas avec le rachat de Warner par Paramount Skydance. C'est un empire de télévision et de cinéma qui tombe dans le camp pro-Trump. Qu'est-ce que ça augure? Ce sera notre conversation ce soir avec Corentin Célin. Qu'est-ce que la guerre entre le Pakistan et l'Afghanistan a à faire avec le conflit en Iran? Eh bien, beaucoup de choses. C'est ce que va nous expliquer Louise Baudet dans Le Monde à l'endroit. Le reportage ce soir est en Albanie. Est-ce que vous imaginez Tirana, la capitale, en ville futuriste, gratte-ciel, complexe, résidentiel? C'est ce que la ville devient. Est-ce que ça cache quelque chose?
C'est une façade et du maquillage à destination des visiteurs, mais qui ne profite pas à ceux qui vivent ici.
Un reportage à découvrir autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé des chatbots dopés à l'IA nord-coréenne qui infiltrent les entreprises européennes. Et puis juste avant 19h, Caroline Gillet, au pays des 27, à la rencontre d'un diplomate belge qui, pour chaque décision européenne, doit accorder la voix belge aux francophones, aux flamands, aux régions, aux communautés. Et vous allez l'entendre, c'est pas si simple. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va ?
CNN reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz.
Celui qui parle, c'est Pete Hegseth, le chef du Pentagone. C'était là, vendredi, en conférence de presse. Et voici ce qu'il dit. CNN rapporte que l'administration Trump a sous-estimé l'impact de la guerre menée par l'Iran sur le détroit d'Hormuz. C'est un reportage fondamentalement peu sérieux. Plutôt David Ellison prendra les rênes de cette chaîne et mieux ce sera. Bonsoir Corentin Célin.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, Corentin, professeur agrégé en classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon. Vous écrivez pour Les Jours, la chronique des États-Unis. La charge de Pete Hegseth, Corentin Célin, ministre de la Défense, donc à qui reproche tout simplement, en gros, qui dit, CNN a dit les États-Unis sont coincés dans le détroit d'Hormuz, que dit à peu près tout le monde au moment où on se parle, vivement que le nouveau patron arrive. On va expliquer qui c'est, David Ellison. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans l'exemple le plus récent, mais peut-être aussi le plus frappant, de la volonté de Trump de remodeler à sa main le paysage médiatique?
Oui, je crois qu'on peut le dire. Ça, alors déjà, la phrase de Pete Hegseth, le ministre de la Défense, s'inscrit dans une attaque plus large. Mm-hmm. Donald Trump a eu des phrases très très dures ce week-end contre les médias qu'il accuse de trahison, de haute trahison, parce qu'il relayerait la propagande iranienne. Donc, CNN est ciblé parce que précisément ils savent tous deux, Hegseth et Trump, que désormais, sauf si le ministère de la Justice met son opposition à la fusion entre Warner et Paramount, eh bien, cette entreprise sera dans des mains amies et ils ne s'en cachent plus. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump avait eu des phrases un petit peu similaires sur le précédent achat de David Ellison, CBS, et on voit que CBS a déjà commencé à être remise en ordre, on va dire cela comme ça.
On va y venir évidemment à CBS aussi. Est-ce que vous diriez que CNN, c'est la prise de guerre? Parce que la crise avec Trump, elle date d'il y a très longtemps. Elle a commencé avec la première administration en 2016, avec le présentateur vedette qui s'appelait Jim Acosta, viré de la Maison Blanche. Ça s'appelle de la prise de guerre quand on parle de CNN, non ?
Oui, absolument, parce que dans la quête de Trump du pouvoir, dans l'histoire personnelle de Trump, c'est une chaîne qui a un rôle particulier. Alors, on l'a peut-être un peu oublié au début, une chaîne qui avait été critiquée en 2015-2016 parce qu'elle donnait trop de temps d'antenne gratuit à Trump, alors candidat qu'elle recherchait un petit peu pour ses saillies, ses mots saillants, etc. Et ensuite, CNN est passé à partir du premier mandat à une opposition frontale à contre Donald Trump, considéré comme un président non démocratique, qui mettait en danger la démocratie américaine. Et Trump en a fait l'étendard. C'est la chaîne fake news par excellence. Dans le premier mandat, quand il disait fake news, c'était CNN. Hein, ouais. C'était vraiment CNN. Donc là, pour lui, il doit y avoir un plaisir, une jouissance quand même assez intense de voir cette chaîne qui va être aux mains, et ça j'insiste là-dessus, les Ellison, alors pas forcément David le fils, mais le père Larry, c'est vraiment un ami à Trump. Trump a très peu d'amis, mais Larry Ellison, c'est peut-être quelqu'un qu'on peut qualifier d'ami de Trump. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement proche.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus effectivement sur cette famille-là? Parce que ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que tout cela est possible parce que Warner, à qui appartenait CNN, vient donc d'être acheté par Paramount Skydance. Skydance appartenait au fils David Ellison, qui rachète Paramount, qui rachète CBS et qui rachète ensuite Warner. C'est qui cette famille? Elle sort d'où cette famille Ellison?
Alors, effectivement, c'est un peu étrange parce que Larry Ellison, c'est quand même un des hommes les plus riches du monde. Il a été, d'ailleurs, brièvement, durant l'automne, il est passé devant Elon Musk au, ce classement fluctuant des plus grandes fortunes mondiales. Parce que, donc, c'est le PDG fondateur de la firme Oracle, une firme de haute technologie, en particulier spécialisée dans les réseaux et dans les infrastructures réseaux, qui a fait fortune dans ce secteur et qui est un homme immensément riche et dont la richesse a été en plus, j'allais dire, consolidée par l'IA. Alors c'est un petit peu redescendu parce qu'on sait que bon, il y a ce phénomène un peu de bulle de l'IA, mais sa fortune, vraiment, c'est un homme immensément riche, donc vraiment une des toutes premières fortunes mondiales, qui est très proche de Donald Trump. Et alors quand on dit oui, c'est le fils, c'est vrai, mais dans l'offre qui est faite sur Warner, cette offre a été dans un premier temps garantie par un prêt, une garantie personnelle de 40 milliards de dollars du père. Donc c'est vraiment un achat familial, hein, j'allais dire. Les deux marchent de pair.
Et quand on dit, quand on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de bâtir un véritable empire de presse, vous l'avez évoqué juste avant, il y avait eu CBS, avec déjà des conséquences effectivement sur l'antenne de CBS. Est-ce que c'est bâtir un empire de presse? Est-ce que c'est surtout bâtir un empire de presse quasiment pour l'offrir à Donald Trump? Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Alors, incontestablement, c'est en tout cas le souhait de Donald Trump et il ne s'en cache absolument pas. C'est-à-dire que, de la même manière qu'H7 avait dit, on l'a entendu tout à l'heure, vivement que CNN soit entre des mains amies, hein, je caricature pas, Donald Trump a dit à plusieurs fois, alors dans les deux sens, il lui est arrivé de dire, pourvu que CBS soit bientôt avec un meilleur propriétaire, ou alors, on l'a vu aussi se plaindre parce qu'il trouvait que CBS lui faisait encore trop de mauvaises manières. Hein. En décembre, il s'est un peu plaint. Il a dit finalement, hein, c'est pas si bien que ça avec les Ellison parce qu'on me traite encore pas bien. Alors c'était un peu exagéré parce qu'il y a quand même eu beaucoup de signes qui ont été donnés à l'administration Trump. Mais chez Trump, en tout cas, c'est revendiqué comme tel. Hein. C'est je vais être enfin mieux traité. La presse fake news va laisser la place à une presse sympathique pour MAGA. Et lui, en tout cas, le voit comme ça. Alors évidemment, c'est un petit peu comme, je fais cette comparaison, mais c'est un petit peu comme avec les juges à la Cour suprême, entre les vœux de Donald Trump et la réalité. Après, il y aura aussi des intérêts de business, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui se passe à CBS donne plutôt raison à Donald Trump.
Alors, ce qui se passe à CBS, c'est changement de patronne, changement de celui qui présente le Evening News. Donc, c'est vraiment le moment où il y a la très grosse ambiance. On sait que Stephen Colbert et son Late Show vivent leurs derniers instants, puisqu'il a déjà été viré. Il partira à la fin de cette semaine. Si on regarde aujourd'hui le paysage audiovisuel américain, Corentin Célin, dans quel ordre ça marche désormais? Est-ce que ça marche quand il y a reprise en main? Ou est-ce qu'au fond, c'est pas ça l'important, en fait? L'important, simplement, c'est que ça appartient à un autre camp désormais, et peu importe si ça fait de l'audience ou pas.
Alors, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment il y a vraiment un effort de changement éditorial. On l'a vu donc à CBS et c'est pour ça que beaucoup de personnes craignent pour CNN, c'est que il y a véritablement un changement de contenu éditorial. On l'a vu en particulier une scène qui a vraiment été très marquante, c'est-à-dire que la nouvelle directrice de l'antenne de CBS, donc Barry Weiss, qui a été installée par les Ellison, a nommé un nouveau présentateur du journal du soir de CBS. Or, le journal du soir de CBS, c'est vraiment la tradition, le grand journal, comme chez nous, les 20h. Bon, là, ils sont un peu plus tard. Bon, et elle y a nommé Tony Dokupil, donc qui était jusque-là présentateur de la tranche du matin. Et il a fait une annonce pour annoncer son arrivée à l'antenne, où il a dit, texto, hein, je le cite. Nous avons donné trop de place aux experts, aux universitaires, et je veux donner maintenant une place à l'information, à la vôtre. Vraiment un plaidoyer très populiste, hein, vraiment, qui aurait pu être signé un petit peu avec une teinte anti-élite par Donald Trump, qui a beaucoup marqué. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne d'information? On dit, bah non, on va plus faire appel aux gens qui sont experts et qui sont universitaires ou scientifiques. Qu'est-ce que cela signifie? Et deuxièmement, Decoupil, quand il a fait sa première semaine d'antenne, a à un moment donné plaisanté, fait des petits, parce qu'il est de Miami, à Marco Rubio, n'hésitant pas à le saluer comme l'homme ayant le mieux réussi de Floride. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne de télévision? Enfin, qu'est-ce que c'est ce journal d'information? Voilà. Donc, c'est vraiment très concret.
Corentin Célin, vous restez évidemment avec nous parce que Warner, désormais sous la bannière de la famille Ellison, on l'a dit, c'est un empire télévisuel. C'est aussi un empire cinématographique. Je voudrais qu'on rejoigne Loïc Piella qui est avec nous depuis Los Angeles. Bonsoir Loïc.
Bonjour.
Ce qu'il faut dire, oui, bonjour d'ailleurs. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Warner, on sort de la cérémonie des Oscars. C'est une bataille après l'autre. C'est Sinners qui ont été récompensés très largement cette semaine, donc, par les Oscars. Ça ressemble, quand on regarde les choses désormais, Loïc, ça ressemble à un baroud d'honneur pour Warner, en fait, non, cette cérémonie?
Disons que c'est un hasard du calendrier plutôt ironique, hein, parce que l'année de sa vente, effectivement, Warner triomphe avec 10 Oscars, 6 pour Une bataille après l'autre, 4 pour Sinners, et parce que ce sont deux films avec des thèmes, hein, l'un qui parle de violence politique, l'autre de racisme, qui n'ont pas l'air de fasciner le propriétaire de Paramount et donc bientôt de la Warner.
Alors la crainte, c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est un retour, pardon de caricaturer, mais enfin, à ce stade, est-ce que c'est le retour de Stallone et Rambo ou équivalent? C'est ça la crainte, en fait, désormais? C'est ça que peut devenir Warner?
Bah disons que c'est la spéculation, parce qu'on prend l'exemple de Paramount, et l'une des premières productions lancées par le nouveau Paramount, c'est le retour de la franchise Rush Hour avec Jackie Chan, vous savez. Et la rumeur veut que l'idée vienne de Donald Trump lui-même, un film réalisé par Brett Ratner, également réalisateur du récent documentaire Melania, sur Melania Trump, après avoir passé 10 ans exilé d'Hollywood dans la foulée du mouvement MeToo. Et Paramount, aujourd'hui, c'est un peu présenté comme l'anti-Netflix, souvent décrit comme trop woke. C'est le premier studio qui a critiqué l'an dernier une lettre ouverte de stars hollywoodiennes appelant au boycott d'Israël. Magazine Variety a raconté que les équipes de Paramount travailleraient sur une sorte de version western de Taken, dans laquelle un cow-boy part à la recherche de sa fille, une adaptation du jeu vidéo Call of Duty, un jeu vidéo de guerre. Il y a au sein du studio un appétit pour les projets patriotiques, apparemment, et donc la question, c'est est-ce que ce sera la même chose pour Warner? Est-ce que les prochaines années vont ressembler à la décennie réganienne, hein, celle des Rambo avec Stallone, Top Gun avec Tom Cruise, ou L'Arme Fatale avec Mel Gibson?
Il y a une autre chose que j'ai trouvée assez frappante, Loïc Piella, c'est que ça a l'air accessoire comme ça, mais pas tant que ça. Parce que Warner, désormais, donc c'est l'UFC, c'est le MMA, tout simplement, qui est aussi dans le package, si on veut. Ça veut dire la presse, le ciné et cette autre forme de sport-là, très viriliste, ça raconte au fond la même histoire.
Oui, parce que ce sont des combattants qui s'affrontent dans une cage. C'est le sport qui est devenu l'un des plus populaires en 25 ans. Et l'UFC, la ligue la plus puissante de MMA, a signé un contrat de 7,5 milliards de dollars avec Paramount, et donc Warner désormais. C'est un montant gigantesque, qui a d'ailleurs un peu surpris par son ampleur. Et le patron de l'UFC, il est aussi très ami avec Donald Trump. Il s'appelle Dana White. Il était à Mar-a-Lago le soir de l'élection. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Trump a été l'un des premiers à soutenir l'UFC. On le voit régulièrement à des combats. Et le 14 juin prochain, date du 80e anniversaire du président américain, Donald Trump sera aux premières loges encore, puisque les combats auront lieu sur la pelouse de la Maison Blanche, du jamais vu. Il y aura même un Français d'ailleurs dans la cage, hein, Cyril Gane, une star du sport. Et donc c'est aussi un sport qui renvoie cette image viriliste, macho, qu'essaie de véhiculer l'administration Trump, notamment Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense.
Loïc Piella, je vous remercie beaucoup. Une toute dernière question pour vous, Corentin Célin, parce qu'on voit là l'industrie du cinéma, l'industrie d'une certaine forme de sport. On a parlé tous les deux de l'information et des networks notamment. C'est la suite d'une lame de fond. Il y a eu PBS et NPR qui ont perdu leurs subventions. Il y a le Washington Post regardé par Jeff Bezos. Est-ce que le paysage durablement est changé désormais? La question, c'est est-ce que dans sa guerre contre les médias, Trump a gagné?
On peut dire qu'il est sans doute en train de gagner. En tout cas, il a complètement modifié, si on se rappelle, le premier mandat. Dans le premier mandat, on avait vraiment une presse traditionnelle, encore presque dans sa structure de Watergate, très forte, qui le contrait systématiquement. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, vous parlez du Washington Post, c'est la manière dont Jeff Bezos, donc autre milliardaire, propriétaire d'Amazon, qui lui s'est rallié, qui est plus un rallié plus qu'un ami, comment il est en train de, j'allais dire, de vider le Washington Post de sa substantifique moelle et comment il a déjà, au moins pour les pages éditoriales, conformé les pages éditoriales au Trumpisme. Et donc, de ce point de vue-là, quand même, si on regarde le tableau d'ensemble, il y a effectivement un Donald Trump qui est en train de remporter sans doute au moins une large victoire contre les médias et de les mettre un petit peu, j'allais dire, sous domination.
Corentin Célin, vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur agrégé, vous écrivez pour Les Jours. Je vous remercie mille fois. À très bientôt dans Un jour dans le monde. La suite, c'est vous, Louise Baudet, qui remettez le monde à l'endroit.
Avec le Pakistan qui doit regretter d'avoir proposé le nom de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix l'an dernier.
Allez, juste après ça.
Smoking blue dream on my Kama Sutra. Life is but a dream for a dark skinned bitch like me. Life gets dark when you're dark like me. Times get hard with a heart this big. Mouths get fed when your ass this thick. Count my sheep, then I catch my Z's. I don't read y'all tweets, I delete y'all threads. Don't need weed to be 10 feet tall. I don't need keys when I knock down walls. Been pushing peace since bathroom stalls. Why sell my soul when I know I'm God? I be in the bag, levitating through meditation. Need me, girl, get up. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. Need me, girl, get up. Somewhere. Shit whack, I see it on the blogs, I see you in the chats. You suck every rap nigga dick from the back. But what's the agenda when the it girl black? Y'all can't fathom that I worked this hard. And y'all can't fathom that I earned this chart. Y'all can't stand my vibe cause I'm anointed. All y'all evil assholes just annoying. Blame it on the fame, blame it on the coke. Blame it on the douce, got you feeling low. Y'all wanna believe I'm on drugs and forsaken. They won't credit me so they blame it on Satan. Blame it on my label, blame it on my team. End of the day, everything is on me. Miss Bag Lady, little messiah, little miss higher them hoes, then fire them.
I be in the bag, levitating through meditation. Need me, girl, get up. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. Need me, girl, get up. Somehow I know that all everything is mine.
Doichi et Sisa sur France Inter. Get Up Girl, c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet. You don't have the cards.
The world has changed. Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Louise, question, pourquoi la nouvelle guerre du Golfe attise le conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan ?
Ah oui, comme quoi une guerre peut en cacher une autre et en influencer une autre. Je vous emmène ce soir à l'est de l'Iran et de ce Golfe persique qui capte tous les regards. Une autre guerre y a débuté la veille de l'offensive américaine contre l'Iran. Une guerre entre deux pays autrefois partenaires, le Pakistan et l'Afghanistan. Le premier reproche au second de soutenir les talibans pakistanais, un groupe terroriste qui veut renverser le pouvoir à Islamabad et instaurer une loi islamique pure et dure. Depuis 20 ans, ces djihadistes commettent des attentats meurtriers au Pakistan, deuxième pays au monde le plus touché par le terrorisme. Et ils sont issus de l'ethnie pachtoune, comme les talibans afghans. Les pachtounes sont installés à la frontière entre les deux pays, frontière tracée par les Britanniques à la fin du 19e siècle, frontière contestée par l'Afghanistan, qui veut récupérer l'ensemble du territoire pachtoune.
Et ce contentieux frontalier est ancien. Pourtant, les deux pays ont été des alliés. Hein.
Oui, le Pakistan a soutenu les talibans pendant la guerre conduite par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Rappelez-vous, c'est au Pakistan que les Américains débusquent et éliminent Oussama Ben Laden en 2011. 10 ans plus tard, retour des talibans au pouvoir, les relations se tendent. Les talibans veulent s'émanciper de la tutelle pakistanaise et se rapprocher de l'Inde, l'ennemi de toujours du Pakistan. Ce rapprochement entre l'Inde et l'Afghanistan est d'ailleurs une des clés du conflit en cours. Le Pakistan craint d'être pris en tenaille entre sa rivale historique à l'est et son ancien allié à l'ouest. En octobre dernier, une première escalade fait des dizaines de morts avant que le conflit vire à la guerre ouverte. Fin février, nouveau pas franchi hier soir avec cette frappe pakistanaise sur un hôpital de Kaboul. 400 morts selon les autorités afghanes.
Et l'instabilité aux frontières du Pakistan est encore renforcée par la guerre en Iran.
Oui, le Pakistan, sixième pays le plus peuplé au monde et on le rappelle, puissance nucléaire, c'est désormais toute sa frontière ouest qui menace de s'embraser. Côté nord avec les talibans pachtounes, on vient de le voir, et côté sud avec les baloutches. Qui est-ce ? Eh bien, c'est une autre ethnie séparatiste. Le Baloutchistan est un territoire situé à cheval sur le Pakistan, l'Afghanistan et l'Iran. Autre foyer insurrectionnel, surtout si le régime iranien venait à s'effondrer, laissant un vide qui serait immédiatement mis à profit par les séparatistes baloutches contre le Pakistan.
Les deux guerres, Louise, sont donc distinctes, mais leurs effets croisés pourraient créer un embrasement régional.
Oui, d'autant que le Pakistan abrite la deuxième communauté chiite la plus importante au monde, après l'Iran. La mort du guide suprême Ali Khamenei a déclenché des manifestations violentes à Islamabad et Karachi. Bilan, au moins 20 morts et un gouvernement contraint de louvoyer entre ses différents alliés. Le Pakistan entretient en effet des relations étroites avec l'Iran. Il s'est aussi rapproché des États-Unis et il a signé un accord de défense avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite médiatrice ces derniers mois entre le Pakistan et l'Afghanistan aux côtés du Qatar, des monarchies du Golfe occupées à tout autre chose en ce moment. L'heure n'est vraiment pas aux efforts diplomatiques et le Pakistan doit regretter d'avoir proposé le nom de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix l'an dernier.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour à Tirana, ce soir, en Albanie. Ces dernières années, figurez-vous que Tirana est devenue un nouvel et inattendu Eldorado pour les architectes de tous horizons. Vous ne l'imaginez peut-être pas comme ça, cette capitale, mais des projets originaux, des gratte-ciels de 100 à 300 mètres de haut, des complexes résidentiels, voilà ce à quoi ça ressemble. Les autorités albanaises veulent transformer la capitale en métropole futuriste. Une transformation rapide qui s'accompagne d'une envolée des prix de l'immobilier, mais pas seulement. L'ensemble des partis d'opposition y voient aussi l'ombre du blanchiment et des intérêts criminels qui gravitent autour du gouvernement albanais. Et le reste, c'est Louis Seyer qui raconte.
Il est déjà l'un des gratte-ciels emblématiques de la nouvelle Tirana. Avec sa façade jaune et ses fenêtres rectangulaires, ce géant de 135 mètres domine désormais la place centrale. C'est l'une des dernières réalisations de l'Atelier 4, dirigé par l'architecte Andy Efemi. Ce grand bâtiment en construction va devenir un hôtel prestigieux, l'Intercontinental. Mon agence est l'un des co-concepteurs de ce projet, avec le studio allemand Bolles & Wilson. Ce gratte-ciel constitue une nouvelle expression de la phase de maturation urbaine que connaît aujourd'hui Tirana et l'ensemble de l'Albanie.
Gratte-ciel, hôtel de luxe ou espace public, le cabinet de la famille Efemi s'agrandit au rythme des mutations de la capitale. Mais alors que les chantiers se multiplient, les architectes albanais doivent aujourd'hui se mesurer aux stars de l'urbanisme mondial. Ces derniers viennent en Albanie concevoir des projets souvent irréalisables ailleurs en Europe.
C'est comme un championnat de foot, sauf que c'est un championnat d'architecture qui a lieu à Tirana. Mais il y a certaines règles du jeu. Tous les grands architectes étrangers sont les bienvenus, car ils doivent nous apporter rapidement leur expérience et nous éviter des erreurs, puisqu'on connaît un développement très rapide. Mais leurs réalisations doivent s'inspirer des racines albanaises.
Les tours végétalisées et autres immeubles sculpturaux imaginés par les archistars danois ou italiens sont devenus les symboles du renouveau de la capitale. Une métropole futuriste, selon les autorités, qui veulent y attirer la diaspora albanaise, mais aussi les expatriés et les entrepreneurs du numérique. Autour de l'hypercentre comme dans la périphérie, les immeubles résidentiels se multiplient. Résultat, le prix au mètre carré explose, 30% de plus en 2025 et jusqu'à 4500 euros. Une envolée spectaculaire dans l'un des pays les plus pauvres du continent.
Ce penthouse est à 900 000 euros.
L'agent immobilier Fjordi Subashi fait régulièrement visiter les appartements de luxe.
Le complexe résidentiel où se trouve cet appartement est très apprécié par les acheteurs de nationalité étrangère. Ces dernières années, la demande est très élevée. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi Tirana s'est beaucoup développée et qu'il y a autant de chantiers.
Si les agents immobiliers se réjouissent, la transformation radicale de la capitale n'est pas du goût de tout le monde. La chercheuse en urbanisme Doriana Moussaï dénonce des projets développés sans concertation avec les Tiranais et sans prise en compte des besoins locaux, alors que les eaux usées de la ville se déversent toujours directement dans la rivière.
Ces constructions ne répondent pas aux problèmes des habitants. C'est une façade et du maquillage à destination des visiteurs, mais qui ne profitent pas à ceux qui vivent ici. Et en même temps, ce boom de construction est un instrument de spéculation avec la ville, notamment pour les capitaux issus de l'économie illégale.
Au pouvoir depuis 13 ans, le Premier ministre Edi Rama sélectionne personnellement les architectes et leurs projets. Mais ses opposants l'accusent de fermer les yeux sur l'origine douteuse de certains investissements. C'est le cas d'Adriatic Lapai, dont le mouvement citoyen manifeste régulièrement sous les bureaux du chef de l'État. Le jeune militant établit un lien direct entre le blanchiment d'argent dans le BTP et les scandales de corruption qui ébranlent le gouvernement.
Les groupes criminels qui sont actifs dans le trafic international de drogue collaborent avec les dirigeants politiques qui volent l'argent public. Ils ont investi des sommes considérables dans le secteur de la construction. Plusieurs ministres sont d'ailleurs en prison ou sous enquête. Donc on manifeste contre cette corruption et cette bande qui a pris l'Albanie en otage.
Entre rêve architectural et tension sociale, Tirana incarne les contradictions d'une Albanie en pleine mutation. Le boom immobilier est devenu un enjeu politique majeur pour un pays impatient de rejoindre l'Union européenne.
Louis Seyé pour le reportage. Louis, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est d'abord sous les radars qu'on la trouve avec vous, Guillaume Audam.
Et dans les étoiles, très très loin, dans une autre galaxie, une exoplanète pleine de lave en fusion vient d'être découverte.
Et comme tous les mardis, Caroline Gillet qui ouvre les portes de l'Europe. Caroline, au pays des 27.
Comment mettre d'accord flamands et francophones? Bien avec du chocolat, peut-être qu'il en faudrait davantage pour les compromis à 27.
Et je n'en vois pas sur la table, je dis ça juste comme ça. Mais tout de suite, les amis, restez avec nous. Le tour de la planète continue avec Poky Lafarge. Get it before it's gone, ça date de 2021 et c'est Djoubaka qui choisit la musique.
Woke up this morning, what you think I do?
De Poky Lafarge, Get it before it's gone. Allez, passons sous les radars, les amis, en quête de l'information internationale qui vous a échappé, mais que Guillaume Audat a repéré. Kuala Lumpur annule donc ses accords commerciaux avec les États-Unis.
Et la Malaisie devient ainsi le premier pays au monde à rayer d'un trait de plume son accord sur les droits de douane signé avec l'administration Trump. Petite piqûre de rappel, car tout va si vite en ce moment. Le mois dernier, la Cour suprême américaine a jugé illégales les taxes massives imposées par Washington sur les importations étrangères. Qu'à cela ne tienne, a décrété hier le ministre du Commerce malaisien. Datuk Abdul Ghani a déclaré nul et non avenu, je le cite, les fameux tarifs du président américain, en l'occurrence plus 19% sur les biens en provenance de Malaisie. L'opposition réclame la tenue d'une session spéciale du Parlement quand même pour discuter de cette annonce surprise. La crainte étant que cette volte-face commerciale ait dans un avenir proche de lourdes répercussions. Gros coup de poker tout de même de Kuala Lumpur. Les capitales du monde entier attendent désormais la riposte de qui ? De Trump ? Avant de se positionner, la Maison-Blanche, quant à elle, redoute plus que tout l'effet domino d'une telle décision.
If you own a company, you might have interviewed a North Korean operative and not even know it.
Ils débarquent en masse de Corée du Nord. Des légions de travailleurs fantômes infiltrent et menacent, Guillaume, les entreprises européennes.
Certes, mais comment font-ils, me demanderez-vous ? Alors je vous donne la réponse sans plus attendre. Grâce à l'intelligence artificielle. Super, relèverez-vous, on est vachement plus avancé. Oui, mais navré, Fabienne, je suis un être humain pétri d'imperfections. Je fais des phrases longues et parfois même sans information, comme celle-ci. Ce qui n'est pas le cas des faux salariés avec de vrais salaires. En réalité, des agents du renseignement nord-coréen qui se font passer en ligne pour des candidats crédibles. Ils répondent à des annonces, balancent leurs faux CV, renvoient vers des comptes LinkedIn piratés. Ils modifient ensuite leur visage grâce à des deepfakes. Et une fois embauchés, ils travaillent à distance ou mieux encore, ils font travailler des chatbots à leur place et parfois même sur plusieurs postes en simultané parce qu'ils sont vachement forts. C'est un rapport du GTIG qui documente le phénomène, la cellule cybersécurité de Google, et qui alerte déjà plus de 300 entreprises américaines ont été pénétrées par ces faux salariés et l'Europe serait désormais ciblée. Morale de l'histoire, méfiez-vous de votre collègue de travail si ce n'est pas un collègue de bureau. Il y a peut-être derrière votre écran un espion nord-coréen bien décidé à siphonner vos données.
The planet is going to move a lot, but the star itself is only going to move just a tiny bit, and that's why we call it a wobble.
Bah, y a sûrement une intelligence artificielle parce que je comprends pas ce que vous m'avez écrit là.
Wobble.
C'est ça, voilà, ou le léger mouvement de va-et-vient d'une étoile provoqué par la présence d'une planète. Je ne sais
une
même pas
exoplanète, une exoplanète, hein, pour être plus précis encore, wobble en anglais, soit un objet céleste situé en dehors de notre système solaire, mais qui tourne en effet autour d'une autre étoile de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Il y a à l'intérieur, en plus du Soleil, au moins 200 milliards d'étoiles supplémentaires. Voilà, pour le rappel des faits. Et donc, autour de l'une de ces 200 milliards d'étoiles, à 35 années-lumière de la Terre, ce qui représente environ, j'ai fait le calcul, 330 milliards de kilomètres, des astronomes américains...
Vous avez beaucoup de temps à perdre.
Européens. Je fais des phrases sans information parfois aussi. Donc, des astronomes américains et européens pensent avoir mis la main sur une planète très singulière, un monde sans océan, ni continent, et dont la surface est recouverte de magma en fusion, une mer de lave éternelle où, évidemment, Fabienne, je ne vous conseille pas d'aller vous baigner. Ce que nous dit cette découverte, parce qu'elle nous apprend quelque chose, évidemment... Et c'est que, d'abord, elle a été réalisée grâce au super puissant télescope James Webb, mais c'est qu'il existe également, et ça c'est l'enseignement, des corps planétaires encore inconnus dans l'univers, mais mieux encore, au sein de notre vaste univers, de notre galaxie, la Terre et ceux qui la peuplent ne sont en réalité qu'une exception fragile.
C'est beau. Merci beaucoup, Guillaume Houda. Allez, le mardi, c'est Caroline Gillet, ça sera beaucoup moins romantique.
France Inter, le 18-20.
Et Caroline, et encore que d'ailleurs, vous nous parlez ce soir, vous nous parlez souvent d'ailleurs ici de la difficulté pour les Européens de parler d'une seule voix, commune et claire, sur la scène internationale. Eh bien, dans certains pays, c'est encore plus difficile parce que avant cette recherche de compromis à 27, le travail commence à l'échelle nationale.
Oui, chez les Belges par exemple, ça peut être long. Christophe de Neys supervise les discussions entre Flamands et Wallons. Il est directeur général Wallons et Flamands et francophones. Voilà. Il est directeur général des affaires européenne au sein du ministre des Affaires étrangères belge, et il a envoyé son assistant me chercher à l'accueil.
Il y a marqué sur mon badge que je dois être accompagné. Du coup, si je pars en courant de l'autre côté pour aller visiter des bureaux là-bas, faut que vous me couriez après. Je cours très vite, hein. Merci.
Bon, on est aux affaires étrangères, la situation du monde est ce qu'elle est, on n'a pas trop le temps pour mes blagues nulles.
Bonjour.
Ça va bien, enchanté.
Enchanté, Caroline. Et ce bureau est...
Christophe a fait des efforts très appréciés pour la déco du bureau. Je mettrai une photo sur la page de la chronique pour inspirer les fonctionnaires européens qui nous écoutent depuis les leurs, qui sont parfois vides et sinistres, ils se reconnaîtront. Il y a des skateboards aux couleurs de Magritte, une carte de vœux envoyée à Christophe par la famille royale. Et la maquette du bateau de la licorne dans Tintin. D'ailleurs, Christophe ressemble un peu à Tintin.
Mais il y a ce lien, il y a la couleur de cheveux aussi. Ça vous êtes gardé d'en parler.
Christophe a aussi un portrait du premier roi des Belges, la monarchie ciment du pays, dit-il. Et pourtant, il travaille dans le gouvernement d'un premier ministre, Bart De Wever, qui dirige un parti nationaliste qui prône l'instauration d'une république flamande indépendante. Je me dis qu'il doit être rodé au concept de compromis.
Au sein d'un pays de presque 12 millions d'habitants, entre les différentes régions, c'est parfois compliqué, évidemment, d'arriver à trouver un point de vue commun. Donc ça prend un peu de temps. Et ça m'arrive, quand je sens que ça va être particulièrement difficile, de mettre quelques bonbons dans la salle ou du chocolat pour essayer de, essayer de faciliter les discussions. Est-ce que ça marche ou pas?
Est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret d'une décision qui a été prise récemment où il y avait besoin de pas mal de chocolat?
Ouais, celle sur laquelle on a le besoin sans doute de plus de chocolat, c'est la grande négociation du moment et c'est celle du budget européen. Si on veut donner à l'Union européenne les moyens nécessaires pour peser dans ce monde, ça passe évidemment par des budgets. On doit se pencher sur où est-ce qu'on met les priorités. Et c'est déjà compliqué de définir une position au niveau national, mais alors imaginez-vous une telle négociation à 27.
Voilà les conseils de Christophe pour trouver des compromis. Les Français, on écoute. En premier, chocolat et patience. Ensuite, comprendre, mais vraiment bien comprendre, le pourquoi des oppositions.
On peut beaucoup plus facilement, en changeant un mot ou un autre, récupérer l'interlocuteur et mettre les gens autour de la table.
Donner des infos pour que tout le monde ait en tête le contexte.
Ce qui leur permet à eux d'avoir une vision éclairée du jeu dans lequel on joue, qui font qu'on se réunit sur une position commune qu'on peut ensuite aller défendre au sein des institutions. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le dossier le plus compliqué, je dirais. Il y en a évidemment plein d'autres des dossiers. On fait 600 coordinations comme ça par an.
Et ensuite, quand il y a une position commune belge, on va à Bruxelles. Enfin, on y est déjà, mais on traverse le boulevard jusqu'aux institutions européennes pour défendre cette position. Christophe me propose de montrer une salle importante au bout du couloir.
Quand j'ai pris mes fonctions il y a un an et demi, je trouvais qu'on avait une toute petite cuisine qui payait pas de mine. Et mon idée a été de créer un espace pour se détendre. On a rajouté un baby-foot, ce qu'on appelle un kicker en Belgique. Il y a un jeu de fléchettes. Et donc on a dû trouver un nom pour cette nouvelle salle. Et on avait fait un sondage parmi mes équipes et on était arrivé sur The Situation Room.
Référence bien sûr à la fameuse salle de crise de la Maison Blanche.
Ici on prend ça avec beaucoup plus d'autodérision, je pense.
Il y a des photos d'un chat, Maximus, le chat du Premier ministre Bart De Wever, qui a son compte Instagram, MaximusTP16.
Et voilà, il a bientôt plus de followers que le Premier ministre, ce qui est un peu devenu une compétition entre les deux.
Et Bart De Wever, justement, vous aviez beaucoup entendu parler de lui lors d'une autre recherche de compromis, tendue, au sujet des avoirs geôliers russes, qui sont conservés principalement en Belgique. Entre octobre et décembre dernier, la Belgique avait tenu bon face aux 27 et refusé qu'on se serve de cet argent pour soutenir l'Ukraine.
C'était une des options sur la table, mais c'était, dans notre opinion, pas une option acceptable sans une mutualisation complète des risques.
Christophe a vécu ces négociations de près. Pour les Belges, les risques auraient été trop grands.
Nous avons un traité bilatéral d'investissement avec la Russie, et donc si on allait vers ce genre de montage financier qui ressemblait fort à ce qu'on pourrait qualifier d'une confiscation, il y a évidemment des risques de représailles, voire des risques d'arbitrage, ce qui exposait alors notre pays à des sommes colossales qui sont presque de l'ordre de notre produit intérieur brut.
Les discussions, elles ont eu lieu essentiellement dans la salle du Conseil, donc à huis clos, sans journaliste, conseiller ou téléphone, juste entre chefs d'État. Je rêve de savoir comment ça s'est joué. Christophe n'était pas loin.
Il y a eu quelques moments de pause où il pouvait alors ressortir de la salle et on pouvait faire le point sur les négociations et voir où est-ce qu'on en était et éventuellement varier ou adapter la position.
Et vous, du coup, vous avez chacun vos bureaux et puis parfois il peut vous rejoindre, c'est ça, pour dire « Alors il s'est passé ça ».
C'est exactement comme ça que ça se passe.
Au sein du Conseil, pendant ces négociations qui peuvent durer toute la nuit, chaque pays a sa délégation.
Des espaces qui sont les mêmes mais qui sont meublés de manière différente. Et on profite aussi de la présence de tous les autres conseillers dans les autres délégations pour aller prendre un café de temps en temps, entendre quelle est l'ambiance dans les autres délégations et essayer d'aller à la recherche d'informations. Évidemment, c'est comme ça qu'on arrive in fine à une solution à 27. Moi, je vous en dirai pas plus sur tout ceci. Ce qui s'est passé, ce qui s'est dit doit rester entre les dirigeants. Je pense que c'est important aussi parce que ça fait partie de comment est-ce qu'on construit la confiance dans un projet pareil.
Et un compromis avait été trouvé pour un prêt à l'Ukraine, finalement bloqué par la Hongrie. À voir jeudi lors du nouveau Conseil des chefs d'État si un nouveau compromis est trouvé. Avec du chocolat ou sans.
Ah ben, j'espère bien, oui. En tout cas pour nous, on y sera. En tout cas, merci beaucoup Caroline. Vous reviendrez la semaine prochaine, évidemment.